Oh, monastère orthodoxe de Kiev est un nid d'espions russes. Regardez ces images. Perquisition aujourd'hui au monastère de l'Or des Grottes. Les services de sécurité ukrainiens craignent que sous ces coupoles dorées que l'on voit là se cachent des saboteurs russes, des groupes de reconnaissance russes, des stocks d'armes russes. Et ils le disent très officiellement. Rim, ils ont raison d'avoir peur,
Bien sûr
les
qu'ils ont
Ukrainiens.
raison d'avoir peur. C'est un fait établi que une partie de l'Église orthodoxe dans certains pays, d'ailleurs même pas juste l'Ukraine, dans d'autres pays, même dans l'Union européenne, fait partie des réseaux d'influence russe.
Vous
Ça,
voulez dire y compris à quelques centaines de mètres de ce studio?
Oui.
Non, oui, bien
Oui.
sûr. Entre
Michel de
autres,
Lagaraille dit oui.
entre autres, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment établi. Ce n'est pas du complotisme et ce n'est pas les services de renseignement ukrainiens qui sont dans une paranoïa. En plus, ils sont dans une guerre existentielle puisqu'ils ont face à eux un Poutine qui veut littéralement les effacer de la carte. Donc, évidemment, ils doivent être très 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 sûr que ils n'ont pas de vulnérabilité et d'espions parmi eux. En plus là, ce qui est intéressant quand on regarde ce compound,
Oui.
Ce complexe de ce que c'est ce monastère, il y a des grottes par exemple là-bas où on pourrait cacher beaucoup de choses. On sait que il y a bien sûr des religieux qui sont encore très proches de la Russie.
On va en parler. Je veux juste vous montrer une carte pour bien comprendre où on est. On est à Kiev. Regardez, on a ce monastère qui va apparaître sur la carte en bas. Regardez, à moins d'un kilomètre, il y a
Voilà.
le palais présidentiel de Zelensky. Ulysse Gosset, comme spot d'espionnage, on n'a pas trouvé mieux.
Oui, alors il faut quand même préciser une chose, c'est que le monastère de la Laure des Grottes de Kiev, c'est le siège de l'Église orthodoxe fidèle à Moscou. C'est-à-dire, elle dépend du patriarche de Moscou. Et c'est important parce que le patriarche orthodoxe ukrainien de Kiev a fait sécession et lui a son siège dans la cathédrale Sainte-Sophie qui se trouve tout près du palais présidentiel. Non, l'espionnage, ce n'est pas une question de distance, c'est l'infiltration par les orthodoxes russes pro-Kremlin, si j'ose dire, de la société civile ukrainienne. Et là, c'est vrai que historiquement, ça a été démontré, prouvé. Du temps de l'URSS, l'Église était totalement infiltrée, l'Église orthodoxe russe était totalement infiltrée par le KGB. Il y avait même des évêques qui l'ont reconnu après la chute de l'URSS, des évêques qui ont été nommés à l'âge de 31 ans et puis promus encore archevêques à l'âge de 38 ans et qui ont fait des carrières météoriques parce qu'ils étaient soutenus par le KGB. Que faisaient-ils? Ils informaient les services de renseignement sur l'activité de l'Église, bien sûr. Lors des voyages à l'étranger, ils les informaient sur ce qui se passait à l'étranger. Donc c'était un rouage du KGB. Ça a été démontré, prouvé dans l'URSS. Il n'y a aucune raison que le KGB, devenu FSB, ait arrêté ce
Et
type de
changer
pratique.
de rime.
Et dernière
Et...
chose, simplement, c'est qu'il y a eu une scission. C'est peut-être le plus important, qui date de 2019 et qui a été confirmée en 2022, c'est-à-dire là, au
Au moment
moment
de
de
la
la
guerre.
guerre. Il y a une scission très profonde entre les deux églises ukrainiennes et russes, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un schisme et que les Ukrainiens orthodoxes sont maintenant fidèles au patriarcat
Ouais,
d'Istanbul.
ce que semblent penser les services de renseignement, c'est que là, on garde un
Alors,
nid de Russes.
c'est
non,
la
mais
branche
attendez,
moscovite,
attendez.
et c'est ça qui est plus compliqué.
Les Ukrainiens, dans leur majorité, les orthodoxes, sont maintenant affiliés au patriarcat d'Istanbul, si j'ose dire, pour être au pape orthodoxe d'Istanbul. Et ils restaient, donc, au monastère de la Laure, dans les grottes de. Ils restaient ce patriarcat fidèle à Moscou. Donc, c'était une menace potentielle et sans doute ont-ils découvert ce qu'ils appellent le centre du monde russe à Kiev. Alors, un nid d'espions, on verra, mais il y avait des suspicions très fortes.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction en Russie qui accuse aujourd'hui les Ukrainiens de s'attaquer à la foi orthodoxe. Et on sait très bien que le régime de Poutine, depuis des années, utilise son positionnement comme Ulysse le disait très bien, sa proximité à la foi orthodoxe comme un outil politique. Donc là, c'est clair qu'il y a une connexion politique et c'est clair que ça fait partie de leur réseau d'influence à
Le
nouveau.
patriarcat de Moscou a déclaré la guerre à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il a soutenu Poutine de façon très claire.
Et d'ailleurs,
Attendez, on
le
l'écoute. Je sais, je vous interromps encore, Nicolas Tanzer, je suis
Non,
désolé, Rim aussi, mais
oui.
on va écouter le patriarche
On le voit avec
Kirill.
Poutine,
On
là.
le voit avec Poutine, effectivement, fidèle supporter de Poutine, plus fidèle que lui, c'est difficile. Et regardez ce qu'il disait au mois de septembre, ce qu'il conseillait aux jeunes Russes, c'était tout simplement d'aller faire la guerre.
Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup meurent sur les champs de bataille. L'Église prie pour que les combats cessent le plus tôt possible, pour que le moins de frères possible s'entretuent dans cette guerre fratricide. En même temps, l'Église se rend compte que si quelqu'un reste fidèle à sa vocation et va accomplir son devoir, et si cette personne meurt en accomplissant ce devoir, alors elle accomplit sans aucun doute cet acte comme un sacrifice. Elle se sacrifie pour les autres. C'est pourquoi nous croyons que ce sacrifice lave cette personne de tous les péchés qu'elle a commis.
Engagez-vous, Nicolas Tenzer, si vous mourrez, vos péchés seront lavés.
Oui, non, c'est-à-dire que Goudienov, enfin le vrai nom de
oui,
patriarche Kirill, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même quelqu'un, comme d'ailleurs un certain nombre de prêtres orthodoxes, qui dépendent de lui, qui ont béni les soldats qui allaient tuer volontairement les civils en Syrie, comme aujourd'hui en Ukraine. Je veux dire, c'est quand même une église et un patriarche qui sont responsables directement par cette incitation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et ça, il faut quand même le rappeler. Sur l'église l'orthodoxe, il y a d'autres églises qui sont totalement infiltrées par cette propagande russe. L'église géorgienne, qui est un instrument du pouvoir pro-russe et de l'influence pro-russe en Géorgie. Et deuxièmement, l'église, bien évidemment, serbe. D'ailleurs, on se rappellera aussi que les patriarches de l'église serbe bénissaient les soldats de Milosevic, de Karadzic, de Mladic, qui allaient accomplir leur forfait, on sait de quelle manière.
Michel Lagarde, on ne vous a pas entendu sur cette suspicion de nid d'espion au monastère de la Lore des Grottes.
Écoutez, on peut voir que de toute façon, Poutine et Kirill II ont parti liés d'une façon très étroite qui a été soulignée ici, c'est évident. Maintenant, on s'aperçoit que l'Église orthodoxe russe recouvre la Russie et commence à se restreindre qu'à la Russie, parce qu'effectivement, cette dépendance est extraordinaire vis-à-vis du pouvoir. Moi, je peux vous citer une chose, c'est qu'en 1992, j'ai fait escale à Vladivostok, et que cette ville, dans laquelle aucun bâtiment européen n'avait fait escale depuis 77 ans, était dans un état de délabrement extraordinaire, mais les églises orthodoxes étaient rutilantes. Donc déjà, à cette époque-là, on couvrait d'or l'église pour qu'elle... retrouve tout son faste, mais on couvrait d'or aussi, très certainement, Kirill, qui est loin d'être le plus pauvre de tous les Russes.
Ah oui, non, bah, vous voulez des photos mais... On a des photos, si vous voulez. Regardez.
Non, non,
j'ai fait scandale.
Le choc,
fait scandale.
La montre.
Mais oui, bien sûr, la montre, évidemment. On a la photo de la montre, ce soir, Nicolas Tenzer.
Pas que ça, mais...
Montre de luxe. Que l'on aperçoit juste en dessous, on ne va pas l'apercevoir là, évidemment. Mais là, voici, on a le zoom sur cette montre de luxe qui avait fait scandale, qui avait été effacée sur certaines photos photoshopées pour éviter que, qu'effectivement les accusations d'enrichissement ne fluctuent contre Kirill.
Mais d'ailleurs, dès la fin du mois de mai, ça c'est important, c'est que la branche moscovite même avait fait une déclaration, une velléité de sécession avec Moscou. En raison de nombreuses déclarations de Kirill lui-même. Mais effectivement, à l'intérieur de cette branche-là, il reste des religieux qui sont évidemment très proches de Moscou, mais qui avaient dû se plier à la décision collégiale qui avait été prise à ce moment-là. Mais ça montre à quel point il y a cette dimension religieuse. Comme vous le dites, depuis 2019, ça a été vécu comme un camouflet terrible que le patriarche d'Istanbul reconnaisse l'indépendance de la branche, cette fois ukrainienne, de l'Église orthodoxe. Donc, il y a cette dimension religieuse. Et voilà, ce n'est pas surprenant de voir effectivement cette fouille.
On rappellera, dès son arrivée au pouvoir, Poutine a reconstruit la cathédrale de Moscou.
Oui.
Et il a couvert d'or, effectivement, le patriarche. Mais moi, ce qui me semble encore plus fascinant, c'est que c'est le parallèle qu'on peut faire avec Staline. Lorsque Staline est confronté à l'arrivée des troupes allemandes et qu'il est en train de perdre la guerre, il décide de redonner à l'Église orthodoxe ses lettres de noblesse, de lui donner quelques prérogatives et lui permet en particulier d'élire un nouveau patriarche, qui sera le patriarche Alexis. Et pourquoi le fait-il après que les soviets aient complètement détruit les églises, vous vous souvenez, les cathédrales qui étaient transformées en fermes ou tout simplement rasées? Eh bien, Poutine a compris qu'avec l'Église, il pouvait peut-être tenter de sauver la Russie. Et là, on a cette Sainte Alliance. Aujourd'hui, on la voit avec cette photo qui dit tout. Il y a cette Sainte Alliance avec Kirill pour gagner la guerre contre l'Ukraine. Et donc, s'il y a encore une petite branche moscovite à Kiev, eh bien, c'est sans doute un lieu d'influence insupportable pour les Ukrainiens.
Et c'est ce que cherchent les services de sécurité ukrainiens. Je reviens sur une chose, Nicolas Tenzer. ces accusations d'espionnage, il faut réagir à Moscou, où on explique, enfin ces accusations d'espionnage, pardon, le fait qu'il y ait des perquisitions qui a été menée aujourd'hui dans ce monastère, ça fait réagir jusqu'à Moscou, où on explique, on dit, mais vous voyez bien, ils sont en guerre contre notre religion. C'est une guerre de religion aussi. Voilà comment on réagit du côté des orthodoxes de Moscou.
Oui, mais quand vous avez, vous allez dire, d'abord, effectivement, parler de la religion orthodoxe, je dirais, c'est Kirill, qui est un agent du KGB, et qui, je dirais, n'a absolument rien de religieux, véritablement, c'est une vaste moquerie. Quand on voit, d'ailleurs, les représentants des deux églises qui sont restées indépendantes,
enfin,
en Ukraine,
le pape orthodoxe voilà, russe, on ne peut pas le nier.
Oui, voilà, mais c'est une sorte de pape qui ressemblerait plutôt, dirais, à un empereur mafieux.
Non, mais une seconde, il y a une instrumentalisation totale de la religion par le, excusez-moi, par le régime de Poutine qui se dresse comme le défenseur de la foi chrétienne et des valeurs chrétiennes, alors qu'il vit une vie pas du tout chrétienne et qu'il lance des guerres génocidaires un peu partout dans le monde. C'est ça la vérité de ce régime. C'est une instrumentalisation totale de la foi orthodoxe, malheureusement.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire, évidemment, Rim Momtaz, avec d'ailleurs un élément qui est très intéressant, c'est que les deux églises restées indépendantes en Ukraine, j'ai rencontré les deux chefs de ces églises, ils tiennent un discours profondément libéral, européen, sur des valeurs de tolérance. Ce ne sont pas du tout eux qui vont, par exemple, fustiger, par exemple, l'homosexualité. Ils vont être, au contraire, je dirais, d'une ouverture. Et là, il y a vraiment, effectivement, un choc de deux visions du monde, une vision totalitaire et une vision libérale. Dernier point, petit détail, il faut savoir aussi que l'Union européenne voulait sanctionner Kirill et l'Église orthodoxe. Et c'est la Hongrie.
Oui, ça a été retiré, son nom a été retiré.
Orthodoxe, la Hongrie, c'est la Hongrie qui a bloqué pour les raisons... Oui. Évidemment qu'on sait.
Oui, la Hongrie expliquant, attendez, si vous vous lancez là-dedans, vous vous lancez dans une guerre de religion. Voilà. L'argument hongrois, c'était notamment ça, de dire, attention,
russe.
Pas touche, oui, bien sûr, mais pas touche à la religion.
Voilà.
On peut dire que Kirill n'est pas Jean-Paul II.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que le pape François. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est aussi intéressant. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que le pape François a même dénoncé lui-même le patriarche Kirill en disant qu'il devrait faire attention de ne pas avoir l'air d'un enfant de cœur de Poutine. Donc même le pape François, qui n'est pas nécessairement franchement du côté de l'Ukraine et contre la Russie, il est allé jusque-là.
C'est il dire est contre combien... la guerre, clairement.
Oui, il est contre. Enfin, il est pour la paix. C'est normal.
Mais il
c'est
est
le
contre
pape.
La guerre.
Non, mais je garderai le patriarche Kirill n'est pas le pape Jean-Paul II. Merci, Élise Gosset. Dans une seconde.